Sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM, j'ai le grand plaisir de recevoir Seda Seren. Bonjour Seda Seren.
Bonjour Mélissa.
Alors Seda Seren, vous êtes chercheuse en biochimie, voilà, doctorante en troisième année à l'université de Tours. Maintenant, que dis-je, vous avez terminé votre thèse et voilà, donc vous nous en direz plus tard dans cette émission. Mais tout d'abord, puisque nous sommes sur la radio étudiante, sur Radio Campus Tours, peut-être que vous voulez nous dire un mot sur votre parcours de formation. Alors comment devient-on chercheuse en biochimie ?
Alors pour ma part, j'ai commencé mon cursus universitaire à Clermont-Ferrand par une licence en sciences de la vie. J'ai commencé donc cette licence qui était spécialisée en biologie cellulaire et physiologie. Cette licence m'a permis de faire la relation entre la structure d'un organe et sa fonction, donc durant 3 ans. Ensuite, après cette licence à Clermont-Ferrand, j'ai commencé un master en biologie santé à Angers. C'était un master recherche qui était spécialisé en immunologie et en cancérologie. Ce master m'a permis d'avoir un socle de connaissances pour pouvoir vraiment appréhender correctement et sereinement toutes les professions liées à la recherche. Et après ce master à Angers, j'ai commencé mon doctorat donc à Tours. J'étais inscrite à l'école doctorale qui s'appelle Santé, Sciences, Biologie et Chimie du Vivant. Suite à ce doctorat donc, qui s'intitulait Ciblage pharmacologique de la cathepsine C dans une nouvelle approche thérapeutique de la GPA, j'ai eu donc mon diplôme de doctorat qui m'a conféré donc le titre de docteur. Suite à ces études, j'ai commencé donc aujourd'hui donc je suis post-doctorante et puis voilà.
Alors peut-être un mot, qu'est-ce qu'on apprend en licence de biologie cellulaire et de physiologie? Ça consiste en quoi? Est-ce qu'il y a des TD? Est-ce qu'on va dans un laboratoire
Alors durant moi c'était une licence générale, c'était vraiment les fondamentaux qu'il faut connaître pour pouvoir continuer, pour faire un master si on le souhaite. Donc c'était vraiment très, très, très fondamentaux, c'est des cours que l'on peut avoir dans toutes les universités de France, pour cette licence sciences de la vie. On avait donc des cours magistraux dans des amphithéâtres. Il y avait également des TD qui étaient en plus petits groupes qui nous permettaient de plus facilement interagir avec nos professeurs. Des TP également, des travaux pratiques. Dans ma licence, il n'y avait pas de stage, mais tous les étudiants peuvent postuler du moment qu'ils sont inscrits à l'université pour faire des stages volontaires. Et c'est très facilement et très très bien sur un CV, on peut très, très facilement mettre en avant ce stage volontaire dans son CV.
Est-ce que vous avez fait, vous, un stage volontaire?
Oui, moi j'avais réalisé un stage volontaire durant le mois de juin, pour ma licence 3. Ça m'a beaucoup aidé pour la suite, puisque un petit stage qu'on fait en licence, moi, m'avait permis de postuler et répondre à une offre d'emploi pour mon doctorat. Pour mon doctorat, il était nécessaire d'avoir fait 3 stages avec 3 lettres de recommandation, bien sûr. Et si j'avais pas fait ce stage de licence, moi, je n'avais fait que 2 stages durant mon master.
Voilà, donc avis à nos étudiants qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire ces stages optionnels quand on vous les propose. Et alors pour ce qui est du master, je suppose que c'était un master recherche, donc c'est-à-dire que déjà vous vous orientiez vers quelque chose qui continue après le master?
Oui, effectivement. Moi j'ai fait un master recherche pour faire un doctorat. Je savais dès que je rentrais en master que je voulais continuer et finir ce cursus licence master doctorat. C'est un master général, le master qui est généralement appelé biologie santé. Pareil, ce master est présent dans toutes les facultés de sciences de France. C'est pareil, moi, il y avait des options quand même, il y a des options à choisir. Et moi, ce master à Angers m'a permis d'approfondir l'immunologie et la cancérologie que je n'avais pas du tout quasiment pas du tout abordé en licence, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas réussi. Il faut quand on n'a pas les bases, il faut plus travailler durant les années de master, et puis ça marche quand même.
Est-ce que vous voulez expliquer ce qu'est l'immunologie pour nos auditeurs qui peut-être n'auraient pas d'affinité particulière avec les sciences ?
Alors l'immunologie, le système immunitaire, ce sont donc tous les systèmes, toutes les cellules que nous avons dans notre corps, dans notre sang aussi particulièrement, qui nous protègent contre des bactéries, des virus, des parasites, tout ce qui sont les pathogènes de notre milieu, du milieu extérieur, dans notre corps. Ça nous permet de nous défendre contre les maladies, plus généralement.
Voilà, donc là, et peut-être un mot sur vos stages de master, parce que est-ce qu'ils étaient dans la continuité du stage optionnel que vous aviez obtenu en licence 3 comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui deviez aller à la pêche au stage, ou est-ce qu'on vous les proposait?
Moi, c'était plus à la pêche au stage, plutôt, on va dire ça comme ça. J'avais changé de ville. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand pour ma licence. Je suis arrivée à Angers pour mon master. Donc, il y a une petite difficulté à ce niveau-là, puisque les professeurs ne nous connaissent pas de la licence. Donc, c'est plus dur. Il faut peut-être plus postuler. Moi, j'avais fait beaucoup de lettres de motivation et de CV que j'avais déposées en main propre, en expliquant bien que je souhaitais mon stage, donc un master 1 puis un master 2. J'ai obtenu mon stage de master 1 dans une équipe qui travaillait sur l'immunologie. C'était très immunologie pure. Et ensuite, pour mon stage de master 2, donc je suis passée de l'autre pan de ce master, j'ai fait un stage de cancéro en master 2.
Alors ça consiste en quoi, un stage de cancéro en master 2? Parce que là, cancéro, on imagine bien pour des études plutôt santé, médicale ou infirmière, mais quand on est, comme vous, une chercheuse en biochimie, en quoi ça consiste?
Alors, je n'étais pas encore spécialisée en master. Quand on est en licence, en master, on acquiert des connaissances, et durant nos stages, on peut les utiliser. Durant mon stage de master 2, j'étais dans un laboratoire qui travaillait sur le cancer du sein. Donc un stage de master 2, ça dure 6 mois. Et durant ces 6 mois, on a un petit sujet de stage qui nous permet d'aller au bout ou pas, quand ça ne marche pas comme on le veut. Moi, j'avais travaillé sur un traitement anticancéreux sur des cellules du cancer du sein. Il faut savoir que les cellules cancéreuses, moi c'était des cellules cancéreuses du sein, une fois qu'on fait des biopsies et qu'on les enlève, on peut les garder, on peut les cultiver, on dit ça comme ça, on peut les garder vivantes, elles se multiplient et on peut ensuite essayer des traitements sur ces cellules.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous aviez, à disposition évidemment, c'était encadré dans votre stage, mais c'est-à-dire qu'on vous demandait, vous, en tant qu'étudiante, d'essayer ces traitements sur ces cellules ?
Oui, j'utilisais des cellules cancéreuses, bien sûr dans un cadre qui est très 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 bien, très bien encadré. Je faisais des traitements et je regardais si c'était vraiment, est-ce que oui, les cellules cancéreuses étaient tuées ou non, les cellules cancéreuses n'étaient pas tuées par ce traitement.
Voilà, donc il y avait la mise en œuvre de ces produits que vous faisiez vous-même, les manipulations.
Oui.
Et après, il y avait aussi tout le travail de récolte de données et d'analyse.
Oui, exactement. Donc, il faut savoir qu'on a des formations. Lorsqu'on arrive dans n'importe quel laboratoire INSERM, nous avons des formations qui nous donnent une aptitude à travailler dans certains locaux. Ou pas, en fait, il faut avoir des habilitations à rentrer dans certaines pièces. Une fois qu'on a toutes les habilitations et toutes les formations pour entrer dans ces pièces où on manipule, on fait des manipulations, on réalise donc des traitements, on peut faire autre chose également sur des cellules cancéreuses dans ce cas.
Voilà, donc là, peut-être que ça peut intéresser aussi nos auditeurs de savoir que dans ces formations, dans ces stages, il y a à la fois quelque chose de pratique et quelque chose d'analyse, en fait. Il y a les deux pans.
Oui, l'analyse se fait vraiment à la fin de notre stage pour rendre un manuscrit, pour rendre un compte rendu, un rapport de stage. Et là, on récapitule toutes nos données et on peut aussi réfléchir sur l'aboutissant de notre recherche sur 6 mois.
Et alors là, donc master en poche, et quand même de se dire, vous le souhaitiez déjà, entrer en thèse.
Oui,
mais c'est-à-dire que vous projetiez déjà au moins 3 ans après le master. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie, et puis le courage aussi de faire une thèse?
Il faut du courage, c'est vrai. C'est pas facile, 3 ans de doctorat, c'est vrai qu'on a des hauts, des bas, etc. Mais il faut savoir qu'après un master, il faut passer un concours pour rentrer en doctorat. Donc moi, c'était beaucoup de réseaux. Moi, j'ai formé mon réseau dès ma licence avec mes professeurs, les personnes qui m'ont encadré en stage, en master aussi, et tous mes professeurs que j'ai eus durant ces 2 ans de master. J'avais un réseau qui... Tout le monde savait que je voulais faire un doctorat. Et je recevais par mail, et aussi je consultais des sites internet, les offres de doctorat. Moi, j'ai postulé pour une thèse à Tours. Il fallait, comme je vous le disais tout à l'heure, trois lettres de recommandation de 3 personnes différentes, etc. Donc j'ai envoyé mon CV, mes lettres de recommandation, etc. Et j'ai reçu une réponse pour un premier entretien qui s'est bien passé. J'ai eu un deuxième entretien parce qu'il faut vraiment... Faut s'accrocher pour faire un doctorat, donc je pense que les personnes qui nous recrutent veulent savoir si on en est capable avant de nous emmener au concours. Donc le concours à Tours se passe de la manière suivante. Le jour du concours, nous sommes donc 3. Nous présentons le même sujet devant le même jury et le jury nous pose des questions. Et à la fin, donc le jury va délibérer pour choisir la personne pour faire ce doctorat. C'est stressant, ça se fait, je suis encore vivante. Donc après ce concours, voilà, on commence nos 3 années qui sont très enrichissantes personnellement, professionnellement. C'est vraiment super le doctorat.
Voilà, alors on peut peut-être rappeler votre sujet de thèse.
Alors, il faut s'accrocher. Mon sujet de thèse, c'était donc le ciblage pharmacologique de la cathepsine C dans une nouvelle approche thérapeutique de la granulomatose avec polyangiite.
Voilà, alors, ne décrochez pas, chers auditeurs, parce que c'est d'Assérène. Je pense qu'après une pause musicale, si vous le souhaitez, vous pourrez nous expliciter un peu ce sujet de thèse. Voilà, parce qu'il me semble même que les Tourangeaux ont pu vous entendre à ce sujet l'an dernier lors du TEDx Tour. Voilà, quintessence, c'était le sujet de l'année dernière, et il me semble qu'on peut retrouver votre intervention, votre talk.
Oui.
Sur les internets, voilà. On salue le TEDx au passage. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Nous allons écouter Mélissa Laveau, Radio Sewell. Et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Bye.
la merveilleuse Mélissa Lavaux sur Radio Campus Tour, album Radio Sewell, les mamans Téchoualmouen. Et je suis toujours en studio avec Seda Seren, qui est mon invitée dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM. Alors, Seda Seren, une thèse et même un post-doctorat à l'INSERM, unité 11 000, je ne sais pas comment on dit.
1100.
1100, voilà. Voilà, eh bien, unité INSERM 1100. Alors, quelle est cette unité? Qu'est-ce qu'on y fait et qui y a-t-il?
Alors, l'unité U1100, c'est le centre d'études des pathologies respiratoires, que l'on abrège en CEPR. C'est une unité mixte de recherche avec une double tutelle, INSERM, comme vous l'avez dit, et Université de Tours. Notre unité est située sur le campus commun de la faculté de médecine et le CHU Bretonneau, donc boulevard Tonley.
Alors c'est quoi une pathologie respiratoire? Parce que, comment dire, nos éditeurs peut-être penser à bah, c'est un rhume, mais je suppose que voilà, vous travaillez sur bien autre chose.
C'est plus large que ça, oui, exactement. Une pathologie respiratoire, ça peut être une maladie qui touche les voies aériennes, toutes les voies aériennes, c'est-à-dire les voies nasales, les bronches, mais aussi les poumons. Donc ça regroupe toutes ces pathologies à différents endroits du système respiratoire.
Voilà, donc on en entend parler en ce moment hein, avec la... Enfin, j'irai pas jusqu'à dire la psychose, n'exagérons rien, mais avec le fameux coronavirus, hein, est-ce qu'on peut dire que c'est une pathologie respiratoire? Est-ce que ça touche les bronches, en fait, ce coronavirus?
Alors moi, je suis pas du tout dans la psychose du coronavirus, mais elle est transmise par voie aérienne, donc dans tous les cas, elle impacte le système respiratoire. Oui.
Est-ce que vous avez des exemples, alors, d'autres pathologies respiratoires?
La plus connue, c'est la grippe. Hein. La grippe est une pathologie respiratoire qui est étudiée dans notre laboratoire. Et plus pour rentrer en détail sur notre centre d'études, donc, comme son nom l'indique, travaille sur le poumon, bien sûr, et nos travaux vont s'articuler autour de trois axes. Alors, ces trois axes, donc la première dont nous venons d'évoquer... ça va être la réponse du poumon aux différentes agressions, qui peuvent être bactériennes, virales, etc. Et dans cet axe, nous essayons d'identifier les mécanismes qui se mettent en place pour protéger le poumon. Donc, c'est un premier axe que nous étudions. Ensuite, il faut savoir que dans le poumon, il y a des remodelages. Donc, le poumon est un organe qui se renouvelle et qui est bien sûr remodelé en continu. Donc ça va être le deuxième axe de notre centre d'études pour identifier et caractériser les mécanismes qui régulent ce remodelage. Et pour finir, après avoir bien compris comment se passaient les différents mécanismes dans le poumon, le dernier axe est de développer de nouvelles approches thérapeutiques plus ciblées pour des maladies respiratoires. Et donc ces trois axes dans notre unité articulent donc les trois équipes qui travaillent sur ces thématiques.
Alors vous êtes dans laquelle de ces équipes ?
Alors moi je suis dans l'équipe qui s'appelle l'équipe 2. L'équipe 2. Nous on travaille sur identifier les mécanismes de protéase, antiprotéase qui permettent le remodelage dans le poumon. Et j'ai en identifiant, en caractérisant ces mécanismes, je suis allée jusqu'à l'idée au développement d'une nouvelle approche thérapeutique.
Alors, nouvelle approche thérapeutique, hein, c'était le sujet, je crois, de votre thèse. Vous en parliez également exactement. À ce fameux TEDx. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Alors, moi, je suis partie d'une idée qui était donc la suivante. Et, l'idée innovante qui est arrivée, c'est comment une maladie rare peut sauver la vie de personnes atteintes d'une autre maladie rare. Et comme vous pouvez... Vous pouvez voir, c'est assez rare de partir sur cette hypothèse et avoir des résultats. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'une maladie rare touche... pour qu'une maladie soit dite rare, elle doit toucher une personne sur 2000, au moins. Il existe 7000 maladies rares et tous les jours, de nouvelles s'ajoutent à cette liste. Et pour voir plus grand, en France, il y a 3 millions de personnes qui sont atteintes d'une maladie rare. Et parmi ces 3 millions... il n'y a seulement 3% de ces personnes qui ont un traitement qui ont été développés pour eux. Donc voici la difficulté lorsqu'on est atteint d'une maladie rare, en plus de l'isolement que ça peut apporter, le manque de stratégie thérapeutique. Alors, après avoir annoncé ces chiffres, vous comprenez qu'il est important de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Et moi, j'ai travaillé durant ma thèse sur une maladie qui s'appelle la granulomatose avec polyangéite. C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que notre corps, que notre système immunitaire qui est censé nous protéger, va se retourner contre nous, contre nos organes, pour le tuer. Donc cette maladie auto-immune touche une personne sur 30 000, autant les femmes que les hommes, à partir de 55 ans, dans les pays riches. Et nous ne connaissons actuellement pas la cause de cette maladie. Et donc cette maladie, la granulomatose avec polyangiite, il y a des premiers symptômes qui vont arriver, mais qui ne vont pas faire soupçonner cette maladie auprès des médecins. Les premiers symptômes vont être un rhume qui ne passe pas, de la fièvre, des rhinopharyngites à répétition. Et au bout de quelques mois, le patient va arriver aux urgences avec une détresse vitale, il ne pourra plus respirer, ses reins seront HS. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette maladie est auto-immune, comme je vous le disais, c'est-à-dire que les cellules qui circulent dans notre sang, qui nous protègent normalement, se sont retournées contre les poumons et les reins pour les détruire. Et sans traitement, cette maladie peut être mortelle. Donc, pour rentrer un peu dans les détails scientifiques de cette maladie, nous avons des globules blancs dans notre sang. Donc c'est dans notre sang circulent des petits globules, des cellules. Et à la surface de ces cellules, des patients malades, il y a une molécule P. Et cette molécule P a un chapeau. Lorsque cette molécule P et son chapeau se retrouvent à la surface de nos globules blancs, des globules blancs des patients, il y a une activation. C'est-à-dire que le système immunitaire va s'activer et répondre comme s'il y avait un virus ou une bactérie dans notre corps. Or, il n'y en a pas. Et c'est comme ça que les patients atteints de cette maladie auto-immune vont voir leurs organes détruits. Et donc l'idée, c'était de savoir si cette molécule P avec ce chapeau rend les patients malades, comment est-ce qu'on pourrait enlever cette molécule P, tout bonnement. Et j'ai donc à ce moment-là regardé dans la littérature scientifique, est-ce qu'il existait un cas, des patients, des personnes, qui n'avaient pas cette molécule P? Et quand nous cherchons dans la littérature, nous sommes tombés sur le syndrome de Papillon-Lefèvre, qui est une maladie génétique rare, où la molécule P n'est pas présente à la surface des globules blancs de ces personnes. Donc, l'idée, c'était de mimer cette maladie rare chez les patients atteints de la granulomatose avec polyangiite, cette maladie auto-immune, pour enlever la molécule P et ainsi les guérir.
Alors j'imagine que ce travail en cours, ça doit donner un espoir formidable aux personnes atteintes de ces maladies rares, parce que vous nous expliquez bien qu'il y a peu de traitements. Donc c'est-à-dire que les personnes qui se savent atteintes d'une maladie rare, souvent peut-être se disent qu'elles sont condamnées et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour elles. Et donc là peut-être qu'il y a un espoir.
Les patients sont toujours pris en charge. Les médecins ne laissent jamais leurs patients atteints d'une maladie rare tout seuls. Mais bien sûr, c'est des traitements qui ne sont pas spécifiques. Par exemple, pour cette maladie, qui est la granulomatose avec polyangiite, les patients reçoivent des médicaments qui ne traitent pas, qui ne ciblent pas leur maladie spécifiquement, mais plus généralement. C'est-à-dire que ces patients vont recevoir des médicaments qui vont diminuer leur système immunitaire. Donc ces patients vont avoir des infections opportunistes qui vont arriver. Qui dit infection opportuniste dit antibiotiques. Les antibiotiques amènent des résistances aux antibiotiques. Et c'est vraiment des problèmes qui s'aggravent en plus de la maladie. Il faut savoir aussi que pour traiter cette maladie, la granulomatose avec polyangiite, il y a aussi des anticancéreux qui sont utilisés, avec tous les effets secondaires que nous connaissons. Donc l'idée, moi, d'apporter mon idée, qui est d'avoir une approche thérapeutique plus ciblée, bien sûr, a réjoui les associations de patients. Et ça arrive, ça va arriver bientôt, j'espère, en l'étude clinique, on en parlera peut-être plus tard, et très prometteur, et peut-être que le médicament va arriver bientôt.
Voilà, donc ça veut dire que potentiellement, ces personnes qui souffrent de... Alors, je triche, hein, je reprends mes notes de granulomatose avec polyangiite. Oui. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes-là auront, si elles ont ce nouveau traitement sur lequel vous travaillez, oui. c'est-à-dire qu'elles seraient, entre guillemets, débarrassées des effets secondaires des traitements que vous utilisez pour les maintenir en santé. Est-ce qu'elles auront d'autres effets secondaires, mais moindres ?
Oui, voilà. C'est toujours cette balance entre le bénéfice et le risque d'un médicament. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires avec les différentes thérapies apportées aujourd'hui pour ces patients. Et utiliser quelque chose de plus ciblé va, je pense, j'espère, diminuer les effets secondaires dus à leurs médicaments.
Voilà, mais alors, est-ce que ça veut dire que... Ces personnes vont avoir les symptômes de cette autre maladie auto-immune ?
Oui, très bonne question. Alors, on se pose exactement la même question. Et donc, notre idée a plu à une firme pharmaceutique qui travaillait sur la mise en place de d'un médicament qui peut mimer le syndrome de Papillon-Lefèvre. Et les premières études cliniques, en phase 1, donc le tout début de l'étude clinique, ont montré qu'il pouvait y avoir un problème au niveau de la peau qui pouvait arriver dès les premiers mois. Mais nous, dans l'idée vraiment d'apporter cette nouvelle approche thérapeutique, c'était de donner cette nouvelle molécule, ce nouveau médicament, avec des durées en fait, de traitement plus ou moins longues. Il faut savoir que ce syndrome de Papillon-Lefèvre, les enfants naissent avec et c'est au bout de plusieurs années que les premiers symptômes arrivent. Donc il faudrait utiliser ce médicament très longtemps pour obtenir les mêmes effets que le syndrome Papillon-Lefèvre et avoir bien sûr ces effets secondaires.
Voilà, donc ça veut dire que évaluer tous les effets secondaires, vous ne pourrez vraiment le savoir que quand ça aura été testé en vivant.
Oui, il faut les études cliniques avec des durées plus longues, bien sûr.
Voilà, donc c'est-à-dire que les patients se verront proposer ce traitement. C'est-à-dire qu'ils pourront choisir entre le traitement actuel qui n'est pas ciblé mais qui a tels effets secondaires ou cette nouvelle option mais qui aura tels autres effets.
Il faut savoir que lors d'une étude clinique, il y a toujours le consentement des personnes. C'est un consentement éclairé. Tous les éléments que nous avons en notre possession, c'est le médecin bien sûr qui fait ça, est apporté aux patients. Donc on leur apporte tout ce que nous connaissons actuellement. Et ensuite, la nouvelle thérapie est proposée. Il faut savoir que lors d'une étude clinique, les patients qui reçoivent la molécule et ou peut-être pas des problèmes, leur médicament qu'ils utilisent pour leur traitement de manière chronique est tout de suite rétabli. On ne laisse jamais des patients lors d'une étude clinique sans médicament. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Les patients testent une molécule nouvelle, donc ça c'est avec un consentement éclairé, mais il y a toujours leur traitement qui leur est apporté.
Et alors aussi, une autre question, puisque c'est une maladie rare, ça veut dire qu'il y a peu d'acheteurs, entre guillemets, du traitement. Quel est l'intérêt pour un laboratoire pharmaceutique de développer un médicament, un produit, qui finalement n'atteint pas un grand public, c'est-à-dire qu'ils en vendront peu. Alors quel est pour eux l'intérêt? En plus, si c'est peu vendu, j'imagine que ça va être des traitements extrêmement chers.
Alors pour notre thérapie, nous, celle que l'on souhaite mettre en place, il faut savoir que cette molécule sera certes utilisée pour cette maladie rare qui touche une personne sur 30 000, mais ce médicament pourra être utilisé sur des maladies beaucoup plus communes, comme la pathologie qui touche, on appelle ça la maladie du fumeur, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients potentiels. Donc si le médicament est mis en place pour cette maladie, elle pourrait être utilisée pour d'autres maladies plus communes, donc pourra être commercialisée et pour être utilisé à ce niveau-là.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même un argument pour convaincre un laboratoire de se lancer dans le...
Toujours, et ça c'est notre travail.
Voilà, mais parce que ça veut dire que sur un travail comme celui-là, il y a des fonds publics et des fonds privés. Comment ça marche? Comment vos travaux sont soutenus?
Alors notre unité, comme je vous l'ai dit, est une co-tutelle entre l'INSERM et l'Université de Tours, donc qui nous finance pour nos travaux. Mais il y a aussi des fondations d'associations de patients, des agences pardon, telles que l'Agence nationale de la recherche qui nous finance. Il y a aussi l'agence européenne et à Tours, la région Centre-Val de Loire qui nous aide beaucoup dans nos travaux financièrement. Donc pour avoir cet argent des fondations, des agences, etc., ce sont des appels à projets. Nous répondons, donc nous rédigeons des projets des fois vulgarisés, des fois non, plus scientifiques. Et donc on est choisi et primé donc pour ces projets. Et nous recevons de l'argent de ces différentes fondations et agences. Il y a aussi des contrats de recherche avec des acteurs industriels. C'est une collaboration entre le privé et le secteur public pour avoir des financements.
Donc là, ça veut dire par exemple que si le laboratoire vous alloue une somme, ça veut dire que le produit, enfin le médicament que vous allez produire sera nécessairement vendu par le laboratoire machin ou pas forcément ?
Non, il y a des contrats qui sont établis au niveau d'université. Nous avons un service administratif pardon, et juridique qui entre en jeu à ce niveau-là. Ça sort vraiment des laboratoires de recherche et c'est plus haut dans la hiérarchie. Et c'est eux qui établissent les contrats avec les acteurs industriels.
Voilà, donc ça veut dire que c'est parce que tout ce travail de recherche de fond, ce n'est pas aux chercheurs de le faire.
Si, nous en fait, on recherche... Nous sommes en recherche continue d'argent pour faire nos travaux. Et une fois que... En fait, c'est pour établir les contrats. Donc, surtout avec les industriels. Là, c'est vraiment l'université qui a vraiment des cadres, même l'INSERM, ont une aide juridique et administrative pour établir les contrats.
Alors, j'imagine que ça doit être quand même assez chronophage de rédiger des dossiers de subventions et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça fait en plus partie de toutes vos activités de recherche.
C'est une activité à part entière. Les chercheurs à temps plein, ceux qui enseignent en chercheurs, donc les personnes qui sont vraiment qui travaillent à 100% dans notre unité, parce que par exemple, En tant que post-doctorant, moi, c'est un contrat court, mais les personnes qui sont chercheurs, enseignants-chercheurs et cliniciens, eux, voilà, partagent ce temps entre leur recherche ou leur enseignement, la clinique, mais également une partie où ils recherchent des fonds.
Voilà, et alors, comment dire, parce que si par malheur un fonds n'est pas alloué ou si une subvention tarde à arriver. Comment ça se passe au niveau pratique de la recherche ? Parce que est-ce que ça ralentit en fait l'avancée, par exemple pour l'élaboration d'un traitement ? Si on manque de sous, peut-être que ça stoppe un travail en cours ?
Notre unité, nous avons la chance d'avoir la tutelle donc de l'INSERM qui nous apporte des fonds tous les ans. Et aussi de l'université également qui nous apporte des fonds tous les ans. Nous, toutes les autres, c'est pour accélérer notre recherche. Donc ce sont vraiment des tremplins pour aller plus vite, pour recruter du personnel aussi. Par exemple, des financements qui peuvent être apportés par des agences, des fondations, des associations de patients, permettent de recruter des CDD pour pouvoir aller plus vite, oui.
Alors c'est sur quel type de poste, en fait, ces autres personnels qui peuvent être recrutés pour vous aider dans votre travail de recherche ?
Par exemple, les post-doctorants, comme mon contrat. C'est des contrats à durée déterminée, comme je vous le disais. Ça peut être des techniciens, des techniciennes qui peuvent être recrutés sur ces financements. Des ingénieurs également qui peuvent être recrutés. Et également des stagiaires, entre guillemets, plus long terme, des master 2 qui sont rémunérés. Les années recherche, des cliniciens qui sont des médecins qui sont en fin d'études peuvent venir faire de la recherche pendant un an et il faut également des financements pour eux.
Un mot peut-être pour expliquer, pour qu'on comprenne bien qui fait quoi, c'est-à-dire que les techniciens et les ingénieurs par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans votre travail ? Est-ce que vous travaillez en équipe ? Donc du coup, qu'est-ce qu'eux ils font ?
Oui, alors nous travaillons en équipe et dans les équipes il y a des groupes. Il y a des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui écrivent, donc comme je vous dis, des projets, ils écrivent des projets, des demandes de financement et ils encadrent leur groupe qui est composé de personnel technique. Ça peut être des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche, des assistants ingénieurs, des techniciens, etc. Qui sont épaulés... par des cliniciens, puisque les cliniciens vont apporter leur expertise médicales, mais également les échantillons nécessaires à notre recherche dans ce groupe. Et également, il ne faut pas oublier les étudiants en thèse, les étudiants en stage de master, en licence pro, qui apportent aussi une aide technique et au niveau de la recherche.
Donc c'est-à-dire que, par exemple, le technicien, c'est celui qui va préparer les échantillons, qu'est-ce qu'il fait en fait ?
Oui, dans notre unité, le technicien, c'est vraiment travailler en collaboration étroite avec l'étudiant en thèse, par exemple, aussi avec l'ingénieur. C'est beaucoup de collaboration dans notre unité. On travaille tous ensemble pour un but qui est commun. Et le technicien va être à la paillasse avec l'étudiant en thèse. L'étudiant en thèse va peut-être apporter des idées, voir son chef. Le chef va valider ou non. Et après, on continue. C'est vraiment beaucoup d'interactions qui permet d'avancer.
Leda Seren, chercheuse en biochimie, post-doctorante au Centre d'études des pathologies respiratoires, la unité 1100, ça y est, je sais comment ça se dit, de l'INSERM. Alors je propose de faire une seconde pause musicale dans cette méridienne et on se retrouve tout de suite après. Nous allons écouter Mélodie Gardot et Les étoiles.
Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belle dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rado, lado.
La merveilleuse Mélodie Gardot sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne et je suis toujours en compagnie de Seda Seren, chercheuse en biochimie. Alors, vous nous parliez de ce traitement sur lequel vous travaillez en ce moment même au sein du Centre d'études des pathologies respiratoires, voilà, une unité de recherche de l'INSERM. Alors, c'est d'ACRN, quand est-ce que les patients pourront espérer pouvoir trouver ce traitement, pouvoir l'acheter et en bénéficier ?
Alors, ce traitement très prometteur est en essai pour une autre pathologie aux États-Unis. Donc, une firme pharmaceutique a lancé des études cliniques. Ils sont passés en phase 3, qui est une phase très avancée pour un médicament, pour une autre maladie. Donc, ce que nous souhaitons faire, ça va être donc d'utiliser ce même médicament en France pour cette pathologie rare et la porter en clinique. Il faut savoir que les études cliniques peuvent être longues. Donc, c'est pas la recherche, c'est très long. Faut pas s'arrêter sur 2, 3, 4 ans, c'est vraiment quelque chose qui s'étend. Mais là, on est vraiment en phase d'accélération. Si l'étude clinique arrive, c'est que tout ce qui a été fait avant a été validé et revalidé, bien sûr. Donc l'étude clinique en France, j'espère, va arriver pour les patients atteints de cette maladie rare. Et ensuite, bien sûr, il faut les phases plus avancées pour avoir un médicament sur le marché.
Voilà, donc la recherche, c'est du temps long. C'est toujours utile de le rappeler. Et vous, alors, c'est d'ACRN, au terme de votre CDD, vers quels horizons allez-vous vous tourner ?
Vers d'autres postdocs. c'est un peu ce qui m'attend. Donc là, j'ai commencé mon premier postdoctorat au Centre d'études des pathologies respiratoires pour vraiment boucler toute mon étude, parce que j'ai commencé, donc j'ai fait trois années de doctorat qui ont abouti à des résultats, mais il reste toujours des choses à finir avant de pouvoir partir vers un autre horizon. Donc je vais faire dans la continuité, vraiment. Je vais essayer de travailler sur la même maladie ou le même organe ou les mêmes molécules pour avoir une continuité dans mon CV et également voir d'autres laboratoires, parce que vraiment, j'ai essayé de faire durant ma licence, mon master et mon doctorat dans trois villes différentes, dans des laboratoires différents.
Voilà, donc poursuivre sur la même ère. Est-ce qu'il y a une date importante peut-être à retenir pour tous les patients qui souffrent de maladies rares ?
La journée des maladies rares qui arrive donc le 29 février, c'est pas une initiative de notre unité, mais tous les hôpitaux essayent de mettre en place des échanges avec les patients. Les associations de patients le font aussi. Et à Tours, donc, ça va être dans le hall de l'hôpital, de CHU Bretonneau. Donc toutes les personnes qui sont intéressées pour discuter et aussi échanger, même si on n'est pas malade, on est tous potentiellement des personnes atteintes de maladies rares dans les années à venir. Donc vraiment s'intéresser, essayer de comprendre et d'apprendre aussi pour avoir un œil, une vision plus éclairée.
Là d'ailleurs, à propos de comprendre et d'apprendre, il me semble aussi que vous avez un parcours d'enseignement.
Un petit parcours d'enseignement, oui. J'étais chargée d'ETD. Donc les étudiants nous connaissent bien, ils se demandent si on est professeur, parce qu'on est un peu jeune quand même pour être professeur, mais on fait des cours, donc on est de l'autre côté, on n'est pas assis dans les rangs, mais devant le tableau. Donc oui, j'étais chargée de recherche, pas chargée de recherche, j'espère un jour, chargée de TD. Chargée de TD où j'ai enseigné le métabolisme aux licences 2 à la faculté des sciences à Tours. C'était très enrichissant. J'aimais beaucoup mes étudiants. Je créais des liens avec eux. J'avais envie qu'ils comprennent, qu'ils apprennent correctement et qu'ils aient des bonnes notes, bien sûr.
Alors qu'est-ce que ça apporte à la chercheuse que vous êtes, ce lien pédagogique, en fait, cette idée de transmettre ce que vous savez, de l'expliquer, est-ce que c'est important pour vous dans votre parcours de recherche ?
Oui, c'est important, puisque lorsqu'on est postdoc ou même chercheur ou autre, il faut pouvoir transmettre ses connaissances, pouvoir le faire avec pédagogie, pouvoir vulgariser aussi ses travaux pour montrer à tout le monde qu'on avance, qu'on arrive à trouver des choses extraordinaires. Et moi, ça m'a appris beaucoup, la pédagogie, la patience aussi. Des choses qui pouvaient être évidentes pour moi ne l'étaient pas pour ces étudiants de licence 2. Et moi, quand j'étais en licence 2, c'était pas évident du tout. Et je me suis souvenue de mes années de licence et je me suis dit, tu étais comme eux. Donc, faut pas les prendre de haut. Faut plus de pédagogie, plus d'explications au tableau. Et puis, ça marche. J'espère que ça a marché.
Voilà, et bien merci Sada Seren d'être venue dans cette méridienne pour présenter votre travail de recherche en cours. Hein. On rappelle que vous êtes chercheuse en biochimie au Centre d'études des pathologies respiratoires de l'INSERM. Ah, vous me faites signe, je crois que vous voulez ajouter quelque chose alors.
Oui, alors dans l'agenda aussi à venir, c'est peut-être un temps plus long, mais nous avons un congrès, le troisième, que nous réalisons à Tours, c'est le congrès IC4C qui regroupe les spécialistes qui travaillent sur la cathepsine C. Nous en sommes à notre troisième édition, ce sera en avril 2021. Ces travaux ont permis en trois éditions, bientôt troisième édition, de faire des pas de géant. Et je vous ai parlé peut-être quelques instants de ça, si vous me le permettez. Il faut savoir que nous, notre idée, c'était de mimer une maladie rare dans une autre maladie rare pour apporter une nouvelle approche thérapeutique. Et un effet boomerang a été permis grâce à ces congrès. C'est que la première maladie rare que nous utilisons que nous mimons dans une autre ces congrès ont amené à des nouveaux travaux de recherche sur le syndrome de Papillon-Lefèvre. Et peut-être, j'espère, un jour avoir un médicament et des traitements pour ces patients atteints d'une maladie génétique. Donc je voudrais aussi appuyer sur l'importance des congrès et de l'échange qu'on peut avoir avec différents chercheurs à travers le monde pour pouvoir échanger et faire des débats de géants, comme je vous le disais, sur ces maladies rares.
Bien, merci Sada Seren d'avoir accordé du temps à cette méridienne. Donc on le dit une dernière fois, hein, Centre d'études des pathologies respiratoires. Est-ce que vous encouragez les étudiants à se lancer dans un parcours de recherche ?
Oui, sincèrement. Pour moi, ça a été une super expérience de la licence jusqu'au doctorat et même aujourd'hui. Il faut le faire si on aime, il faut faire le travail qu'on aime, ça c'est certain. Mais il faut persévérer, travailler, continuer, et je pense que ça peut marcher, oui.
Merci à vous, et je propose, chers auditeurs, de se quitter en écoutant un poème. Alors attention, ça va être en anglais, et je vous propose d'écouter « And Still I Rise » de Maya Angelou. Voilà, donc une poétesse, écrivaine, actrice et militante américaine. Donc on se quitte en écoutant Maya Angelou sur Radio Campus Tours. Vous écoutiez La Méridienne et je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos excellents programmes.
Everyone in the world has gone to bed one night or another with fear or pain or loss or disappointment. And yet each of us has awakened, arisen. Somehow made our ablution, seen other human beings, and said, "Morning, how are you? Fine, thanks, and you?" It's amazing. Wherever that abides in the human being, there is the nobleness of the human spirit. Despite it all, black and white, Asian, Spanish, Native American, pretty, plain, thin, fat, vowed or celibate, we rise. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just 'cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh, does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally, there I go rising.
From the thing I always wanted is no different. I want on Nairobi to be elevated. For my people doing their thing to be hella paid. I want all the music to be celebrated. For my people doing their thing to be hella great. I don't make excuses, I don't talk about it. I just go about it, I just be about it. What you gonna do about it? You just hear about it, you just read about it. You just be the people that will ever always be the last to know about it. And even though I keep making 100 mistakes, way up, I feel blessed, and I'm grateful. I stay the Costco, he's faithful. Yeah. We are ripe on the scene, we should come. Me, 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 no matter. We don't make play, we come to show them. Me, 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 no matter. We are ripe on the scene, we should come. Me, 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 no matter. We don't make play, we come to show them. Me, 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 no matter. So different from the way it used to be, like so different, that's the thing I want, is so different from the thing they wanna offer me, is so different. I want tell the people to be elevated, so the children can be one, no more separate. I want tell the music to be celebrated, so the children can have dreams to be hella great. I don't like the system, so I don't assist them, I just step aside them, go around them, just to never wanna be around them, just don't even see them, just don't be about them. I don't believe them, I don't need them, I don't fuck with heathens. And even though I keep making 100 mistakes, I'm safe and I'm blessed, and I'm grateful. I stay the class guy, I'm faithful. We don't make play, we come to show them. Me, 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 me.